Bien-aimés, bonjour. Nous sommes ici pour notre méditation, la parole de Dieu, en ce deuxième dimanche après la Pâque. Je voudrais lire le texte qui va autour duquel nous allons méditer la parole de Dieu dans Jean chapitre 21, versets 1 à 14. Quelque temps après, Jésus se montra à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé les jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait des poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet, plein de poissons, car ils n'étaient qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples après sa résurrection. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la grâce, pour l'opportunité et pour le privilège que tu nous donnes de méditer, mais aussi de transmettre cette parole. Nous prions que tu bénisses l'auditoire, que tu bénisses ces instants, que ton Esprit Saint intervienne, qu'il nous rende capable de transmettre autant que tu veux cette parole et que ceux qui écoutent t'entendent être entrés de te leur parler. Bénis et prends le contrôle de tous ces moments, Seigneur, et permets que nous soyons tous à l'écoute de cette parole que tu nous adresses. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Après avoir lu Jean chapitre 21, versets 1 à 14, qui constitue la base de notre méditation de ce jour, le thème que j'ai choisi, Jésus le ressuscité au cœur de nos frustrations, pour un nouveau départ. Jésus le ressuscité au cœur de nos frustrations pour un nouveau départ. D'entrée de jeu, je voudrais définir ce que nous comprenons par le terme frustration. La frustration, de façon générale, elle arrive lorsque nos attentes n'ont pas été atteintes. Mais en psychologie, la frustration, c'est une tension engendrée par un obstacle qui empêche les sujets d'atteindre un but ou alors de réaliser un désir. Ça signifie que si nous avons choisi de parler des frustrations auxquelles les disciples ont eu à faire face, c'est que nous comprenons que les disciples de Jésus, en tant que disciples qui l'ont accompagné pendant 3 ans, avaient un but à atteindre, même en suivant Jésus. Parce qu'il y a un adage qui dit, les intérêts rassemblent les gens, mais ne les unissent pas. On peut comprendre ici qu'il y a des intérêts que les disciples avaient. Peut-être même contraires aux intérêts que le Christ avait. Ils avaient aussi des désirs à réaliser dans la suivance du Christ, de Jésus de Nazareth. Les disciples attendaient de Jésus le renversement des Romains pour le rétablissement du royaume d'Israël. Ils ont connu des moments difficiles, c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce message, et qui, effectivement, les ont conduits à des frustrations terribles. Des moments difficiles arrivent. Des épreuves peuvent survenir dans notre vie. Et ces épreuves peuvent occasionner, ou alors ces épreuves, lorsqu'elles arrivent, elles peuvent être un test que le Seigneur, par lequel le Seigneur nous fait passer, comme un prélude pour faire de nouvelles expériences plus importantes avec le Seigneur. Les disciples de Jésus ont connu Jésus, ils ont marché avec lui, et nous nous retrouvons dans un passage qui vient de dire effectivement que les disciples prennent la résolution de retourner à la pêche. Mais qui les conduit à cette nouvelle résolution de retourner à la pêche? Et c'est ça qui va être le premier point de notre méditation, c'est que Simon Pierre, un leader visionnaire, mais qui fait fausse route. Les disciples qui avaient répondu à l'appel de Jésus en Galilée, lors de sa première pêche miraculeuse dont parle Luc chapitre 5, de versets 1 à 10, il y a Pierre à qui Jésus avait demandé de jeter les filets pour pêcher. Mais Pierre réagit. Il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. » C'est-à-dire, nous n'avons eu aucun poisson. Mais alors Jésus lui dit, « Jette le filet et vous aurez des poissons. » Alors il répond à Jésus en disant, même si nous n'avons pas eu de poisson toute la nuit, je jetterai quand même le filet sur base de ta parole. Il a jeté le filet et ils ont fait une pêche extraordinaire. Au point que le filet, dit Luc chapitre 5, était en train de se rompre. Alors, l'appel que le Seigneur adresse aux disciples de les suivre à ce moment-là, est un appel tellement pressant parce que Jésus apparaît ici comme un maître extraordinaire qui leur a fait faire une pêche abondante. Et ils ont tout abandonné, après avoir fait cette pêche abondante, ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné et les bateaux et les poissons pour suivre ce Jésus. Tellement l'appel de Jésus était pressant. 3 ans plus tard, Jésus est arrêté. Il est livré entre les mains des malfaiteurs qui vont les torturer jusqu'à les crucifier sur la croix. Alors, les disciples qui avaient abandonné Jésus il y a 3 ans, qui avaient abandonné leurs épouses, excusez-moi, ils ont abandonné leurs enfants il y a 3 ans, ils ont même abandonné leur bateau il y a 3 ans, se rendent compte que celui qu'ils ont suivi ne les a pas amenés à atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés. Comme je venais de le dire tout à l'heure, ils étaient en train d'attendre Jésus, le rétablissement du royaume d'Israël. Mais parce que la mort de Jésus vient brutalement, les disciples sont découragés, ils sont frustrés. Tous les espoirs investis en lui ont été, à cause de la mort de Jésus, enterrés. Alors c'est ainsi que Pierre, un leader sans vision, dit à Thomas, à Nathanaël, aux deux fils de Zabadée, probablement Zébédée, probablement Jacques et Jean, mais aussi à 2 autres disciples qui dont les noms ne sont pas cités, « Je retourne à la pêche. » Lui et les autres qui avaient été investis par Jésus pour devenir des pêcheurs d'hommes, parce que c'est ce qui a été dit dans Luc chapitre 5, verset 10, vont désormais abandonner ou tout simplement démissionner pour ne plus être pécheur d'hommes, mais revenir à l'ancienne carrière dans laquelle ils étaient depuis la jeunesse. Quelle triste expérience. Pierre entraîne, on peut le dire, tous ses collègues dans une aventure ignoble. Malgré l'expérience qu'il avait faite par le passé, d'avoir vu comment Jésus l'avait aidé à faire une pêche extraordinaire, il va quand même décider de revenir à la pêche. C'est-à-dire démissionner de la mission de devenir pêcheur d'hommes pour revenir à la mission ou à la carrière des pêcheurs de poissons. Mais ce qui va arriver est dramatique. Parce qu'ils vont travailler toute la nuit. Et encore ce jour-là, ils ne vont attraper aucun poisson. C'est dans cette situation, c'est le deuxième point de notre message, que Jésus fait son apparition. Le deuxième point de notre message, Jésus fait son apparition à point nommé. Jésus n'arrive pas en retard. Il ne vient jamais à contre-temps. Lorsqu'il veut se révéler, il vient à point nommé. Dans une situation de crise, en temps de frustration doublée d'une fatigue due à un travail infructueux que les disciples venaient de faire toute la nuit, Jésus réapparaît à la rive. Pour affirmer que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Dieu, loin de Jésus-Christ, il n'y a pas de succès. Mais Jésus ne reproche pas, ce qui est curieux, c'est que Jésus ne reproche pas à ses disciples qui venaient de faire une aventure ignoble d'abandonner, de démissionner de la mission pour revenir à l'ancienne tâche d'être pêcheur de poissons. Jésus ne fait aucun reproche aux disciples. Il fait semblant de ne rien savoir. Et il leur demande s'ils n'avaient pas pris de poissons pendant la nuit. Ils ont dit rien. Alors, comme ce fut le cas dans les récits de Luc chapitre 5, Jésus fait la même chose. Il leur demande de jeter le filet à droite et il leur promet d'attraper des poissons. Le filet, une fois lancé, ils eurent de la peine, les disciples eurent de la peine à les ramener tellement il y avait des poissons en grand nombre. À ce moment précis, le disciple bien-aimé a eu l'intuition de reconnaître le Seigneur. Il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre, qui vraisemblablement était nu, remet sa tunique et va se jeter dans l'eau. Pourquoi il fait ça? Il le fait par respect. Parce que l'état dans lequel il se trouve, il ne peut pas se présenter devant le Seigneur. Mais il faut retenir ici que la nudité de Paul n'est pas que physique. De Pierre n'est pas que physique. Sa nudité est aussi psychologique. Parce que Pierre n'a pas oublié effectivement comment il a régné son maître. Il n'a pas oublié cette tragédie, la nuit qui a précédé la mort de Jésus, comment par trois fois il a régné son maître. Sa nudité est aussi spirituelle dans la mesure où Pierre n'a fait que commettre des gaffes. Parce que la première erreur que Pierre avait commise, c'est que lorsque Jésus était en train d'annoncer qu'il allait mourir, Pierre dit, moi, si tous les autres t'abandonnent, mais en tout cas moi je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Jésus a même dit dans Luc chapitre 22, nous avons déjà étudié ce récit, il lui a dit, Satan vous réclame pour vous cribler comme du poisson, comme du grenier. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. Pierre était très sûr de lui-même. Dans sa manière d'être et de se conduire, parmi les autres disciples, il était souvent très sûr de lui-même. Et une nouvelle erreur qu'il commet, c'est effectivement de ramener les disciples à la pêche. Tout ça, il se retrouve effectivement nu devant le Seigneur et il se rejette dans l'eau. Le Christ ressuscité, c'est ce que nous dit cette incidence. Cette incidence, c'est que le Christ ressuscité dans une situation de crise n'est pas loin de ce qui lui appartient. Il n'est pas loin. Il peut désormais apparaître où il veut et quand il veut. Alors que les disciples des missionnaires venaient de faire une pêche infructueuse, le Christ accomplit un miracle de qualité supérieure, une pêche abondante. Nous devons nous rendre compte ici que Jésus apparaît pour montrer qu'il abandonnait, c'est la triste expérience qu'un homme peut faire dans sa vie. Et quand il réapparaît pour faire une expérience, un miracle, accomplir un miracle d'une qualité supérieure, il est en train de montrer aux disciples que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'attacher à lui. Ça vaut la peine de le servir. Ça vaut la peine de ne pas prendre le risque de pouvoir démissionner d'une mission aussi importante dans laquelle le Christ, le Jésus les avait investis. Nous devons dire, nous devons comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous devons éviter de croire que quand Dieu nous a appelés à le suivre et à le servir, nous pouvons quitter ou abandonner cette mission-là quand nous voulons et comme nous voulons. L'appel que le Seigneur adresse à tous pour le suivre, à tous pour le servir, c'est un appel et une vocation pour la vie qui n'intègre pas en aucun cas une quelconque démission. Voilà pourquoi Dieu ne démorde pas. Comme il est dit au grand mot des grands remèdes, Dieu utilise tous les moyens qu'il lui faut, parce qu'il en a autant qu'il veut, pour ramener à la raison ceux qui tentent de démissionner de la mission pour laquelle il les a appelés. Si l'on tient à démissionner, et si on démissionne, il y a un risque. Le risque, soit de perdre sa propre vie, parce qu'on risque, de croire qu'on peut gagner sa vie en démissionnant de la mission à laquelle le Seigneur nous a invités, ou devenir une personne ordinaire, c'est-à-dire vivre une vie lamentable. Comme du sel, on risque de perdre sa saveur. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, quand on a perdu sa saveur, quand le sel a perdu sa saveur, il devient inutile. Il n'est utile que pour être jeté et foulé aux pieds. J'insiste donc ici en disant que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour la vie. Il nous appelle pour une vie abondante. Il nous appelle pour une vie digne d'être vécue. Et cette vie à laquelle il nous appelle n'intègre pas une quelconque démission. Voilà pourquoi Dieu utilise toujours des moyens. Il peut utiliser ses serviteurs, il peut utiliser des circonstances de la vie, comme ce que les disciples ont vécu. Cet échec, cette pêche infructueuse a été une circonstance que le Seigneur a mise en route pour pouvoir les ramener à la raison. Mais il réapparaît lui-même pour qu'ils puissent reconnaître que celui qui les a appelés au départ et celui qui est ressuscité continue à tenir pour que la mission ne s'arrête pas. Alors, enfin, que vise le Seigneur dans ce récit? Que vise le Seigneur? C'est un appel des disciples pour un nouveau départ. Et c'est ça donc, d'ailleurs, ce que nous avions annoncé comme thème de notre message, Jésus le ressuscité au cœur de nos frustrations pour un nouveau départ. Ce que le Seigneur vise pour les disciples, il les appelle à un nouveau départ. La qualité de cette pêche abondante, surabondante d'ailleurs, que Jésus vient de faire aux disciples, n'est pas une fin en soi, parce que le récit ne nous dit pas ce qu'ils vont faire par la suite de ces poissons qu'ils ont eu. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Les miracles en soi, c'est un signe d'un renouvellement d'appel qu'il est en train d'adresser à ses disciples frustrés, mais qui ont osé démissionner, croyant pouvoir faire leur propre vie, comme ils l'entendent. Or, pour Jésus, il fallait continuer selon l'appel de départ qu'il leur avait adressé. Il y a deux éléments que nous allons retenir dans cette récit à partir du verset 9. Le tout premier élément, c'est que lorsque les disciples arrivent à la rive, lorsqu'ils terminent, après avoir fait cette pêche fructueuse, abondante, lorsqu'ils arrivent, Jésus était là. Lorsqu'ils ont fait la pêche fructueuse plutôt, Jésus était là. Un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Ça, c'est le premier élément. Les poissons et le pain. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans les évangiles. Les poissons rappellent donc le miracle de la pêche en Luc chapitre 5, dont je venais de parler au début. Mais le pain aussi peut nous rappeler le miracle de la multiplication des pains dans Jean chapitre 6, où Jésus a donné du pain et les gens ont mangé jusqu'à être rassasiés. Jésus se présente ici comme le pain de vie qui nourrit la foi des disciples, la foi en train de se perdre. Il intervient ici pour nourrir la foi. Mais aussi revitaliser l'engagement des disciples afin qu'ils reprennent encore l'élan, un élan nouveau, pour annoncer le message de la résurrection. Voilà pourquoi au verset 13, il est dit qu'il prit du pain et leur distribua, et il fit de même pour le poisson. Mais ici, quand on voit qu'il a pris du pain, il a distribué, il a pris aussi du poisson, il est en train ici de célébrer la Sainte Cène avec eux, comme pour dire que ce geste qu'il venait de poser, de prendre le pain, le distribuer aux disciples, de prendre le poisson, le distribuer aux disciples, c'est ce geste de la célébration de la scène que les disciples vont continuer à poser pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Deuxième élément à noter, et c'est au verset 11. Le deuxième élément à noter au verset 11, c'est que Pierre, c'est celui qui va remonter les poissons. Ce n'est ni Nathanaël, ni Thomas, ni les fils de Zébédée, ni les deux autres disciples, mais c'est plutôt Simon Pierre qui avait demandé aux autres de retourner, de l'accompagner parce qu'il retournait à la pêche. C'est maintenant lui qui va faire remonter les poissons à la rive. Et le filet qu'il prend est rempli de 153 poissons. Ce chiffre, c'est juste un symbole pour dire la surabondance ou alors l'universalité de l'Église. Cette Église d'une diversité inimaginable qui sera composée des hommes et des femmes au même titre, des hommes et des femmes et des enfants, des jeunes, de toute race, de toute langue, de toute tribu et de tout rang social. C'est cette église dont Pierre, qui avait démissionné, reçoit encore un renouvellement de confiance de la part du Christ ressuscité pour lui dire, Pierre, Simon Pierre, tu vas diriger cette église. Voyez à quel niveau le Seigneur est plein d'amour vis-à-vis de ceux qu'il appelle. Et même quand Pierre tente de démissionner, entraînant les autres, le Seigneur veut les récupérer. Il les récupère, non seulement il les récupère, mais il renouvelle la confiance vis-à-vis de Pierre parce qu'il va diriger cette église. Il est dit dans le texte, dans ce verset 11, qu'il y avait 153 poissons, mais le filet ne se rompait pas. Une manière de montrer que l'église dont il est question ici est solide, elle est stable, elle est unie. Malgré les vents qui vont tenter de secouer l'Église. Malgré les coups et les contre-coups qui vont tenter de secouer l'Église. Malgré ce qui est en train de nous arriver actuellement avec le COVID-19, l'Église reste solide. Elle reste forte. Elle reste stable. Elle va rester unie. Parce qu'il va suffire d'un seul filet pour rassembler toute cette Église. Alors, la solidité de l'Église dépend de celui de qui elle vient et quel message elle confesse. Cette Église, par le fait qu'elle appartient à Christ, qui est la fondation sur laquelle cette Église est édifiée, mais qu'elle annonce un message puissant de la résurrection de Christ, qui garantit effectivement la résurrection de tous les croyants d'entre les morts, cette Église subsiste à toutes les vagues par lesquelles elle passe. L'Église ne mourra pas. L'Église ne disparaîtra pas. L'Église reste solide et est stable par la confession de la vérité qu'elle proclame. Une vérité qui a le pouvoir de changer de vie, de transformer les individus, de transformer les vies des gens, mais aussi transformer la société. Voilà pourquoi elle est solide, elle est forte, et rien ne pourra l'ébranler. Pierre est donc réhabilité dans son rôle de pasteur universel qui rassemble l'Église unie et à qui sera confiée la direction de cette Église. C'est ici, effectivement, je crois que les catholiques ont compris que Pierre était le premier pape. En fait, nous, on le prend ici comme un disciple qui a eu à vouloir faire marche arrière à son ancienne vie, mais le Seigneur l'a récupéré. Bien-aimés, je voudrais conclure ce message en disant que nous sommes tous dans la barque des disciples. Confrontés d'une manière ou d'une autre, chacun en ce qui les concerne, à une pêche infructueuse. Ça peut être des situations liées à la vie que nous menons, vie de crise. On ne sait pas de quoi se nourrir. On peut être en train de manger ce soir, on ne sait pas de quoi on sera nourri demain. Nous sommes tous dans la barque. Ça peut être ce qui arrive aujourd'hui où il n'y a plus d'assurance de lendemain parce qu'il n'y a plus de salaire pour beaucoup d'entreprises sont fermées. Et même si elles existent, elles ne produisent pas. Il y a des écoles et des universités qui sont fermées. Il n'y a pas moyen de pouvoir, on ne sait pas de quoi on va se nourrir demain, de quoi les lendemains seront faits. Il y a donc ce COVID-19 qui est en train de nous plonger tous dans la confusion totale, au point que la vie devient intenable. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans la barque. Mais il y a aussi d'autres qui ont des sujets pour lesquels ils ont attendu l'intervention de Dieu. Et Dieu a tardé à répondre par rapport à ces sujets-là. Le retard que la réponse de Dieu prend les plonge dans la frustration. Il y a des couples qui attendent d'avoir le tout premier enfant, mais ça tire à longueur, ça crée des frustrations. Il y a des promotions attendues, mais ça ne vient toujours pas. Il y a des affaires qui ne tournent pas. On a trop attendu, mais ça continue, plutôt que de s'accroître, mais ça continue à aller, la situation continue à aller de mal en pis. Toutes ces choses, tous ces échecs auxquels on est confronté, le chômage de la jeunesse, beaucoup de jeunes terminent des études, n'ont pas d'emploi, et même ceux qui ont un emploi, ils ont un salaire qui ne peut peut-être pas les aider à joindre les deux bouts du mois. Toutes ces choses impliquent dans nos vies ce que nous appelons frustration. Comme j'ai défini la frustration au début de ce message, selon les psychologues, je crois qu'ils ont raison, c'est une tension engendrée par un obstacle auquel on est en train de faire face au point et qui empêche les sujets d'atteindre un but ou alors de réaliser un désir. Nous avons chacun des désirs, nous avons chacun des objectifs pour nous-mêmes, pour notre présent et pour notre avenir. Mais parce que cela n'arrive pas toujours, nous sommes frustrés. Restons dans la barque, voulais-je dire. Nous sommes appelés à rester dans la barque Parce que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, effectivement. Même si nous sommes confrontés à une peste miraculeuse, nous devons savoir que le Christ ressuscité ouvre devant nous un nouveau départ. Nous devons donc mettre de côté nos frustrations. Ne pas laisser les frustrations nous paralyser par rapport à ceci ou à cela, mais laissons nos cœurs être ouverts à la parole de Dieu. Cette parole du Christ ressuscité peut nous rendre capables d'avancer, de compter sur lui pour un nouveau départ qu'il a le pouvoir d'ouvrir devant nous. Il y a un serviteur de Dieu qui avait dit, « Grande est ta tempête, grande aussi sera ta mission. » Nous ne devons pas être effrayés par les tempêtes par lesquelles nous passons, parce que plus il y a une tempête, mieux le Seigneur met en œuvre une nouvelle ouverture, un nouveau départ qui peut lui-même faire commencer et faire aboutir dans notre vie pour nous conduire vers l'abondance qu'il prépare, comme il l'a fait pour les disciples. Cette abondance tant recherchée, les disciples l'ont eue, mais eux n'attendaient pas. Mais ils ont eu un coup de surprise en obtenant du Seigneur ce qu'ils n'attendaient pas. C'est ça que le Seigneur est en mesure de faire. Lorsque nous restons attachés à lui, nous restons ouverts à sa parole, nous restons attentifs à la manière dont il se révèle à nous, nous nous laissons entraîner par lui. Il a souvent des choses qu'il peut réaliser dans notre vie qui nous surprennent. Voilà pourquoi nous nous appelons à nous tous de rester dans la barque. Dans la barque où le Seigneur est le capitaine de nos vies. Parce que c'est à lui que nous devons confier et notre présent et notre avenir. Le temps n'est pas aux frustrations. Le temps n'est pas à nous laisser paralyser par les frustrations, les échecs ou les apparences défaites. Il est temps plutôt de nous laisser conduire par lui, toucher par sa parole et attendre en silence le secours qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui connais le niveau de nos frustrations, toi qui connais nos états d'âme, toi qui connais ce qui nous paralyse, chacun à sa manière. Nous prions que ce message que tu nous adresses ce jour consiste à nous laisser réunis dans la barque où tu es le capitaine. Parce que toi, tu sais toujours où tu conduis ceux qui t'appartiennent. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à ne pas abandonner. Tu nous aides à ne pas démissionner. Tu nous aides à ne pas prendre le risque de faire marche arrière, mais de rester accroché à toi et à continuer la route avec toi. Parce que plus nous sommes attachés à toi, mieux nous serons gagnants. Nous prions que ce que les disciples ont réussi à avoir, qu'ils n'attendaient pas, tu le réalises dans la vie d'un plus grand nombre, des familles, des couples, des individus ou des individualités, et que nous soyons surpris de la manière dont tu interviens autant que tu veux et autant que tu veux dans la vie de ceux-là qui sont restés attachés à toi. Ta parole nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Fais-le pour ceux qui ont écouté ce message. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.